Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie insiste l'OKI de gérer immédiatement les accidents des Palestiniens contre les attaques à Al-Aqsa. Le président Joko Widodo veut que les jassas d'armement deviennent un investissement de défense. Lancé du Comité national pour la finance islamique, ou KNKS, le président espère l'augmentation de l'utilisation de l'industrie de la charia. La façon de l'Indonésie de lutter contre le terrorisme a été appréciée de nombreux pays. L'Indonésie espère que l'OKI s'unit pour aider la Palestine. L'Indonésie commence à entrer dans l'ère de l'inflation stable. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'Indonésie a insisté les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique ou l'OKI d'intervenir immédiatement dans la résolution des accidents d'expulsion les Palestiniens dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa par la sécurité israélienne et faire les efforts réels pour mettre fin au long conflit entre la Palestine et l'Israël. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, après une rencontre avec le vice-président Yusuf Kalla à Jakarta, a déclaré que l'Indonésie était très préoccupée par les attaques contre les Palestiniens par les forces de sécurité israéliennes dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa le samedi 22 juillet 2017. Le 1er août, il y aura open and special session pour l'OKI de discuter Al-Aqsa. C'est l'insistance de l'Indonésie. Et la semaine dernière, avec l'OKI, a souligné l'OKI de mener immédiatement une session extraordinaire pour discuter incident à Al-Aqsa. Le 27 juillet, il y avait une réunion de la Ligue arabe. Le message de l'Indonésie est l'importance de l'OKI, de la lutte pour l'indépendance palestinienne. Selon la ministre Retno Marsudi, elle a aussi communiqué avec les Nations Unies, comme le Conseil mondial de la sécurité, pour faire un réel effort, gérer les conflits qui font les morts palestiniens. L'attaque au complexe Al-Aqsa a tué 3 Palestiniens et plus de 100 blessés. L'Indonésie a fermement condamné la violation des droits de l'homme par les forces de sécurité israéliennes. Le président indonésien Joko Widodo a mené une réunion limitée du cabinet sur la politique d'approvisionnement du système d'armes principal ou alutsista au bureau présidentiel de Jakarta mercredi. Dans son discours, le président a souligné l'importance de prendre le processus de passation des marchés afin de renforcer l'industrie nationale de la défense. Il a également déclaré qu'à ce jour, le gouvernement de l'Indonésie reçoit souvent des offres de coopération dans le renforcement des équipements de défense de divers pays, tels que la coopération en matière de transfert de technologie et l'établissement de l'industrie de la défense étrangère dans le pays. Selon lui, les offres devraient être optimisées pour avoir une nouvelle percée et pour obtenir l'indépendance dans le but de répondre aux besoins nationaux du système d'armes principaux.
pemenuhan kebutuhan alutsista harus.
L'accomplissement de la nécessité d'un armement doit être conforme au renforcement de l'industrie nationale de la défense. Actuellement, l'Indonésie a obtenu des offres de coopération en matière d'alutsista de nombreux pays. Ces offres incluent le transfert de technologies et la conception conjointe qui permettront aux droits d'auteur des nouveaux équipements de défense appartenant à l'industrie nationale, y compris la réaffectation des installations de production des pays producteurs d'origine d'alutsista à l'Indonésie. Ces offres doivent être optimisées, si bien qu'il y ait une nouvelle percée vers l'indépendance de répondre aux besoins des équipements de défense et de sécurité. Et la nouvelle percée doit changer le modèle de dépenses de l'alutsista à l'investissement de notre défense. Le président Joko Widodo rappelle également l'importance de construire un solide armement de défense des forces armées indonésiennes avec l'équipement plus complet et moderne. Il a déclaré que l'état géopolitique stratégique indonésien et l'ampleur des régions de l'Indonésie ont besoin de mesures stratégiques pour atteindre une posture minimale en 2024. Concernant le renforcement des armes, le président Joko Widodo rappelle également le développement des technologies qui auront un impact sur la guerre qui est de plus en plus avancée dans l'avenir. Le président Joko Widodo espère que le Comité national de la finance islamique peut maximiser le potentiel en Indonésie en tant que pays avec la plus grande population musulmane pour encourager le développement économique dans le pays par le secteur financier islamique. Cela a été dit dans un discours lors du lancement du Comité national de la finance islamique et l'ouverture du travail national de l'association Les économistes islamiques en 2017 au Palais d'État Jakarta. Selon le président, en 2016, le marché bancaire islamique dans le pays a atteint 5,3% de l'actif total de l'industrie bancaire nationale. Le chiffre est encore bien inférieur à la moyenne du marché bancaire islamique dans d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, la Malaisie et les Émirats Arabes Unis. Le président optimise que l'utilisation de l'industrie de la finance islamique au maximum pourra être une solution au financement du développement national. Je suis confiant, Inch'Allah, je suis optimiste. Si l'industrie des finances islamiques est vraiment soutenue, renforcée et développée, la finance sharia pourra devenir l'une des principales solutions dans le financement du développement dans notre pays. On peut faire le développement économique communautaire, infrastructures, les routes, les ponts, les ports, les centrales électriques et dans le financement des programmes de réduction de la pauvreté et réduire l'inégalité sociale. Encore une fois, nous continuons à encourager KNKS afin de lancer un programme visant à encourager la finance islamique, l'économie islamique, de sorte que le chiffre 5,3% peut augmenter. En plus de l'utilisation de l'industrie de la finance islamique dans le financement du développement national, le président a également souligné le potentiel élevé des terres wakaf en Indonésie qui couvre 4,3 milliards de mètres carrés. Selon lui, l'utilisation des terres wakaf et le fonds wakaf en cash pour les activités productives peuvent encourager l'autonomisation économique des personnes, les micro, petites et moyennes entreprises. Les avantages peuvent être ressentis directement par le peuple. L'Indonésie possède 34 banques islamiques, 58 takaful ou l'assurance islamique, 7 capital risque sharia, post shop sharia et plus de 5000 institutions de microfinance islamique avec plus de 23 millions d'abonnés. Le président a déclaré que le potentiel devrait faire l'Indonésie en tant que centre financier islamique dans le monde. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre des Affaires politiques, Justice et Sécurité, le général Wiranto, a déclaré que l'Indonésie était maintenant assez bien connue comme un pays qui pouvait prendre des mesures efficaces dans la lutte contre le terrorisme. Il a dit que la façon indonésienne obtenait une appréciation parce que l'Indonésie ne fait pas seulement des mesures décisives, mais aussi par l'approche douce, à savoir la formation. Wiranto a affirmé à Jakarta que la formation était faite pour être une force de lutter contre le terrorisme. Il a ajouté, grâce à ses efforts, l'Indonésie a obtenu actuellement une appréciation des autres pays. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, participera à la session de l'Organisation de la coopération islamique, ou OKI, à Istanbul, en Turquie, le 1er août 2017. La session de l'OKI discutera de la situation actuelle de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. En outre, elle renforcera la position de l'Indonésie sur la situation à Al-Aqsa, à savoir rejeter toutes les formes de répression contre les Palestiniens. L'Indonésie espère l'aide de l'OKI pour les Palestiniens. Les efforts de l'Indonésie pour créer la paix entre la Palestine et l'Israël ont également été montrés en séance publique du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, aux États-Unis, mardi. L'ambassadeur d'Indonésie aux États-Unis, Budi Bowolaksono, a transmis son soutien aux Palestiniens lors de la séance ouverte. Le gouvernement de la Banque d'Indonésie, M. Agus Martowardoyo, a déclaré récemment à Jakarta que l'économie indonésienne était en bon état. La croissance économique a atteint 5% au premier trimestre, avec le taux d'inflation environ 3 jusqu'à 5%. Il a souhaité que jusqu'à la fin de cette année, l'inflation puisse atteindre au-dessous de 4%, en tant que pays des voisins que l'inflation moyenne inférieure à 3%. Selon lui, l'Indonésie maintenant entre dans l'ère de l'inflation faible et stable. Agus Martoyo cible en 2018 le taux d'inflation atteindre de 2,5 jusqu'à 4,5%. La gestion d'inflation doit prêter attention à la disponibilité de la nourriture. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre, l'attitude adoucissante d'Israël envers le contrôle d'Aqsa et le début de la poursuite de la lutte palestinienne. La pression internationale a amené l'Israël à assouplir le contrôle de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. En vendredi, les troupes israéliennes ont manipulé des scanners électroniques devant la porte de la mosquée. Ainsi, les Palestiniens et les musulmans peuvent adorer librement dans la grande et sainte mosquée. Le changement de la politique de restriction au culte a eu lieu dans la lutte des musulmans palestiniens et le soutien de certains États soutenant la lutte palestinienne. Le Croissant Rouge palestinien a publié des données. Plus de 900 Palestiniens ont été blessés par la répression des forces israéliennes au cours des 10 derniers jours au complexe de la mosquée d'Al-Aqsa. Si les tensions continuent, on prévoit que les hôpitaux en Palestine seront incapables de servir et d'accommoder des patients comprenant des Palestiniens blessés par la violence militaire israélienne. Le côté de l'hôpital a expliqué que les blessés qui sont traités à l'hôpital étaient principalement causés par des balles de l'armée israélienne. Pour ce terrible incident, des groupes internationaux de droits de l'homme ont condamné les actions vicieuses de ces troupes israéliennes. Les affrontements entre les Palestiniens et les troupes israéliennes ont été déclenchés par la fermeture de la mosquée Al-Aqsa par les forces de sécurité israéliennes, après que 3 attaquants armés ont tué 2 policiers israéliens. Les forces de sécurité israéliennes ont ouvert le complexe de la mosquée 2 jours plus tard et ont installé un détecteur de métaux à l'entrée du complexe du site sacré. Les conflits politiques ont continué. Selon l'histoire, Israël a limité et essayé de prendre le contrôle de la zone de la mosquée Al-Aqsa où le saint prophète Muhammad a commencé le voyage d'Isra Mi'raj. Lors des derniers développements et de la maîtrise de l'entrée de la mosquée Al-Aqsa par les forces de sécurité israéliennes, les Palestiniens et les musulmans qui la visitent sont en mesure d'organiser les prières du vendredi à la mosquée Al-Aqsa. Mais la lutte pour la libération des territoires palestiniens n'est pas terminée. La victoire palestinienne à entrer librement à Al-Aqsa dans la région de Jérusalem orientale est un élan qui donne de l'espoir à de nouvelles luttes. Le soutien international, en particulier les pays en dehors du Moyen-Orient, devrait faire l'organisation de la Ligue arabe et les États arabes dans la région du Golfe émettre des perceptions et des mesures pour soutenir la lutte du peuple et de la nation palestinienne. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec l'histoire d'aujourd'hui. Le 28 juillet est la Journée mondiale de l'hépatite. La Journée mondiale de l'hépatite, célébrée le 28 juillet chaque année, vise à sensibiliser l'opinion mondiale de l'hépatite B et de l'hépatite C et d'encourager la prévention, le diagnostic et le traitement. Environ 500 millions de personnes dans le monde vivent avec l'hépatite B ou l'hépatite C. Sinon pas traitées, l'hépatite B ou C peuvent conduire à la cicatrisation avancée du foie, soit cirrhose, et d'autres complications, y compris le cancer du foie ou une insuffisance hépatique. Alors que beaucoup de gens sont plus préoccupés par le sida que l'hépatite, le fait est que chaque année, 1,5 million de personnes dans le monde meurent de l'hépatite B ou C. Le 28 juillet 1976, un tremblement de terre dévastateur a frappé le nord de la Chine. Un tremblement de terre qui a eu lieu le matin à environ 3h45, a secoué la Chine continentale, précisément la ville Tangshan, au nord de Beijing. La ville a été frappée par un tremblement de terre de 7,8 sur l'échelle de Richter. La secousse a finalement détruit l'une des grandes villes minières en Chine avec une population de plus d'un million d'habitants. On estime que le nombre de morts a atteint plus de 250 000. Le tremblement de terre de Tangshan, dont devenait l'un des tremblements de terre meurtriers dans l'histoire de catastrophes naturelles dans le monde. Le 28 juillet 1990, Alberto Fujimori devenait président du Pérou. Alberto Kenya Fujimori a été président du Pérou qui a servi du 28 juillet 1990 jusqu'au 17 novembre 2000. Il est la troisième personne d'origine asiatique qui est devenue chef de l'État d'un pays sud-américain. La première était Arthur Chang, 1970-1980, comme le président du Guyane, mais n'a pas de pouvoir exécutif. La deuxième était Dr. Eng Chin Asen, 1980-1981, au Suriname. Dans son mandat, Fujimori a réussi à rétablir la stabilité macroéconomique après la présidence d'Alan Garcia et apporter la paix dans le pays qui était dans la tourmente. Fujimori a également réussi à libérer des dizaines de personnes, les otages de rebelles Tupac Amaru, dans une attaque contre la résidence de l'ambassadeur du Japon à Lima. Cependant, il a également critiqué comme un dirigeant autoritaire. Un scandale de corruption impliquant le chef du renseignement péruvien était noyé sa popularité. À la fin de 2000, après la réunion de la CIAP à Brunei, il est allé au Japon et a démissionné en tant que président du Pérou en envoyant d'une lettre de démission par fax à l'ambassade du Pérou au Japon. Mais finalement, il a été arrêté et extradé vers le Pérou. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec la mise au point et pour le titre, l'Indonésie a insisté l'OCI de tenir la séance pour discuter du conflit à la mosquée Al-Aqsa. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Organisation de la coopération islamique OCI devraient discuter bientôt de la crise dans la mosquée Al-Aqsa. Le ministre des Affaires religieuses Lukman Hakim Saifuddin à Jakarta lundi, le 24 juillet, a déclaré que la situation dans le complexe Al-Aqsa est détériorée au cours de ces derniers jours. La violence des forces de sécurité israéliennes ne provoque pas seulement 3 morts et plus d'une centaine de blessés, mais a augmenté les tensions et restreint sévèrement les activités religieuses dans la mosquée Al-Aqsa. Lukman Hakim a appelé toutes les parties à se retenir. Lukman Hakim a souligné la sainteté des lieux de culte, y compris la mosquée Al-Aqsa, doit être protégée contre toute forme de violence. Pendant ce temps, la ministre des Affaires étrangères Retno Alpemarsudi, mardi, a tenu une réunion avec les représentants des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, pour discuter de la situation de sécurité dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Retno Marsudi a expliqué qu'il y a au moins 2 points principaux présentés à la réunion. L'un d'eux est la position de l'Indonésie sur le développement qui s'est passé au complexe Al-Aqsa. Le second point est de demander les représentants des 31 membres de l'OCI de transmettre à chaque capitale à propos de cette position. Retenons Marsoudi dit, l'OCI ne peut pas être silencieuse face à cette situation et la nécessité de faire des mesures concrètes pour arrêter tous les actes de violence qui se sont produits au complexe de la mosquée Al-Aqsa. Retenons Marsoudi a dit que depuis l'existence des nouvelles sur la fermeture du complexe de la mosquée Al-Aqsa par l'armée israélienne la semaine dernière, l'Indonésie avait communiqué conjointement avec le secrétariat de l'OCI et le représentant permanent de la République d'Indonésie à New York. Elle a demandé à l'ambassadeur d'Indonésie à Amman, en Jordanie, de chercher les informations sur l'existence des obstacles pour les musulmans à entrer dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa. Pendant ce temps, le président de l'Agence de la coopération interparlementaire, Nur Hayati Assegaf, propose au gouvernement et l'Union interparlementaire pour que l'ONU envoie des troupes de maintien de la paix aux frontières de la Palestine. Le casque bleu, la livraison des casques bleus à la frontière de la Palestine pour garder la mosquée Al-Aqsa et le peuple palestinien du crime humanitaire israélien. Assegaf a déclaré que l'Indonésie, comme pays démocratique, qui a une position de politique étrangère neutre active, a un rôle important dans le cas d'attaques israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa. Selon lui, les actions d'Israël ont violé les résolutions des Nations Unies afin que les Nations Unies doivent agir en faire de presser l'Israël. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
L'Indonésie a insisté les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, ou l'OCI, d'intervenir immédiatement dans la résolution des accidents d'expulsion des Palestiniens dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa par la sécurité israélienne et faire les efforts réels pour mettre fin au long conflit entre la Palestine et l'Israël. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsoudi, après une rencontre avec le vice-président Yusuf Kalla à Jakarta, a déclaré que l'Indonésie était très préoccupée par les attaques contre les Palestiniens, par les forces de sécurité israéliennes dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa, le samedi 22 juillet 2017. Le 1er août, il y aura Open and Special Session pour l'OCI de discuter Al-Aqsa. C'est l'insistance de l'Indonésie. Et la semaine dernière, avec l'OCI, a souligné l'OCI de mener immédiatement une session extraordinaire pour discuter l'incident à Al-Aqsa le 27 juillet. Il y avait une réunion de la Ligue arabe. Le message de l'Indonésie est l'importance de l'OCI, de la lutte pour l'indépendance palestinienne. Selon la ministre Retno Marsoudi, elle a aussi communiqué avec les Nations Unies, comme le Conseil mondial de la sécurité, pour faire un réel effort, gérer les conflits qui font les morts palestiniens. L'attaque au complexe Al-Aqsa a tué 3 Palestiniens et plus de 100 blessés. L'Indonésie a fermement condamné la violation des droits de l'homme par les forces de sécurité israéliennes. Le président indonésien Joko Widodo a mené une réunion limitée du cabinet sur la politique d'approvisionnement du système d'armes principal, ou Alutsista, au bureau présidentiel de Jakarta mercredi. Dans son discours, le président a souligné l'importance de prendre le processus de passation des marchés afin de renforcer l'industrie nationale de la défense. Il a également déclaré qu'à ce jour, le gouvernement de l'Indonésie reçoit souvent des offres de coopération dans le renforcement des équipements de défense de divers pays, tels que la coopération en matière de transfert de technologie et l'établissement de l'industrie de la défense étrangère dans le pays. Selon lui, les offres devraient être optimisées pour avoir une nouvelle percée et pour obtenir l'indépendance dans le but de répondre aux besoins nationaux du système d'armes principaux. L'accomplissement de la nécessité d'un armement doit être conforme au renforcement de l'industrie nationale de la défense. Actuellement, l'Indonésie a obtenu des offres de coopération en matière d'alutsista de nombreux pays. Ces offres incluent le transfert de technologies et la conception conjointe qui permettront aux droits d'auteur des nouveaux équipements de défense appartenant à l'industrie nationale, y compris la réaffectation des installations de production des pays producteurs d'origine d'alutsista à l'Indonésie. Ces offres doivent être optimisées, si bien qu'il y ait une nouvelle percée vers l'indépendance de répondre aux besoins des équipements de défense et de sécurité. Et la nouvelle percée doit changer le modèle de dépenses de l'alutsista à l'investissement de notre défense. Le président Joko Widodo rappelle également l'importance de construire un solide armement de défense des forces armées indonésiennes avec l'équipement plus complet et moderne. Il a déclaré que l'état géopolitique stratégique indonésien et l'ampleur des régions de l'Indonésie ont besoin de mesures stratégiques pour atteindre une posture minimale en 2024. Concernant le renforcement des armes, le président Joko Widodo rappelle également le développement des technologies qui auront un impact sur la guerre qui est de plus en plus avancée dans l'avenir. Le président Joko Widodo espère que le Comité national de la finance islamique peut maximiser le potentiel en Indonésie en tant que pays avec la plus grande population musulmane pour encourager le développement économique dans le pays par le secteur financier islamique. Cela a été dit dans un discours lors du lancement du Comité national de la finance islamique et l'ouverture du travail national de l'association Les économistes islamiques en 2017 au Palais d'État Jakarta. Selon le président, en 2016, le marché bancaire islamique dans le pays a atteint 5,3% de l'actif total de l'industrie bancaire nationale. Le chiffre est encore bien inférieur à la moyenne du marché bancaire islamique dans d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, la Malaisie et les Émirats Arabes Unis. Le président optimise que l'utilisation de l'industrie de la finance islamique au maximum pourra être une solution au financement du développement national. Je suis confiant, Inch'Allah, je suis optimiste. Si l'industrie des finances islamiques est vraiment soutenue, renforcée et développée, les finances sharia pourra devenir l'une des principales solutions dans le financement du développement dans notre pays. On peut faire le développement économique communautaire, infrastructures, les routes, les ponts, les ports, les centrales électriques et dans le financement des programmes de réduction de la pauvreté et réduire l'inégalité sociale. Encore une fois, nous continuons à encourager KNKS afin de lancer un programme visant à encourager la finance islamique, l'économie islamique, de sorte que le chiffre 5,3% peut augmenter. En plus de l'utilisation de l'industrie de la finance islamique dans le financement du développement national, le président a également souligné le potentiel élevé des terres wakaf en Indonésie qui couvre 4,3 milliards de mètres carrés. Selon lui, l'utilisation des terres wakaf et le fonds wakaf en cash pour les activités productives peuvent encourager l'autonomisation économique des personnes, les micro, petites et moyennes entreprises. Les avantages peuvent être ressentis directement par le peuple. L'Indonésie possède 34 banques islamiques, 58 takaful ou l'assurance islamique, 7 capital risque sharia, post shop sharia et plus de 5000 institutions de microfinance islamique avec plus de 23 millions d'abonnés. Le président a déclaré que le potentiel devrait faire l'Indonésie en tant que centre financier islamique dans le monde. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre des Affaires politiques, Justice et Sécurité, le général Wiranto, a déclaré que l'Indonésie était maintenant assez bien connue comme un pays qui pouvait prendre des mesures efficaces dans la lutte contre le terrorisme. Il a dit que la façon indonésienne obtenir une appréciation parce que l'Indonésie ne fait pas seulement des mesures décisives, mais aussi par l'approche douce, à savoir la formation. Wiranto a affirmé à Jakarta que la formation était faite pour être une force de lutter contre le terrorisme. Il a ajouté, grâce à ces efforts, l'Indonésie a obtenu actuellement une appréciation des autres pays. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, participera à la session de l'Organisation de la coopération islamique, ou OKI, à Istanbul, en Turquie, le 1er août 2017. La session de l'OKI discutera de la situation actuelle de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. En outre, elle renforcera la position de l'Indonésie sur la situation Al-Aqsa, à savoir rejeter toutes les formes de répression contre les Palestiniens. L'Indonésie espère l'aide de l'OKI pour les Palestiniens. Les efforts de l'Indonésie pour créer la paix entre la Palestine et l'Israël ont également été montrés en séance publique du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, aux États-Unis, mardi. L'ambassadeur d'Indonésie aux États-Unis, Budi Bowolaksono, a transmis son soutien aux Palestiniens lors de la séance ouverte. Le gouvernement de la Banque d'Indonésie, M. Agus Martowardoyo, a déclaré récemment à Jakarta que l'économie indonésienne était en bon état. La croissance économique a atteint 5% au premier trimestre, avec le taux d'inflation environ 3 jusqu'à 5%. Il a souhaité que jusqu'à la fin de cette année, l'inflation puisse atteindre au-dessous de 4%, en tant que pays des voisins que l'inflation moyenne inférieure à 3%. Selon lui, l'Indonésie maintenant entre dans l'ère de l'inflation faible et stable. Agus Martoyo cible en 2018 le taux d'inflation atteindre de 2,5 jusqu'à 4,5%. La gestion d'inflation doit prêter attention à la disponibilité de la nourriture. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
écouter des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous introduisons le sommet Suroloyo à Yogyakarta. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix d'Indonésie. Le sommet Suroloyo est le terrain le plus élevé dans la chaîne de collines Menoreh. Du sommet Suroloyo, vous pouvez profiter de la beauté de Yogyakarta et Magelang avec le temple Borobudur. De là, vous pouvez également voir des vues de 5 montagnes à Java Central, à savoir Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing et Ungaran, qui ne sera vue que quand le temps est vraiment ensoleillé. Le sommet Suroloyo se trouve dans le hameau Keceme, village Gerbosari, district Samigaluh, en région Kulon Progo, Yogyakarta. Le voyage au sommet Suroloyo est plein de défis. Les rues étroites sont pleines de montées abruptes, de virages serrés et flanquées de collines et de ravins. Mais la peur sera bientôt remplacée par l'admiration autant de regarder au paysage d'une beauté incroyable. En ce qui concerne l'œil peut voir, vous verrez un mélange de couleurs vertes avec le ciel bleu et nuages blancs. Mais quand vous arrivez en haut et il ne faisait pas si brillante, la vue que vous voyez sera couverte dans le brouillard. C'est ce qui rend beaucoup de gens ont appelé ce lieu le pays au-dessus des nuages. Pour atteindre le sommet Suroloyo, vous avez encore à monter 286 marches. D'habitude, à 100e marche, beaucoup de touristes qui ont commencé à halter, mais généralement après un repos suffisant, vous pouvez continuer à nouveau avec prudence. Une fois que vous arrivez au sommet Suroloyo, alors vous serez accueillis des dizaines de papillons, moineaux et libellules voletants. Au sommet Suroloyo, il y a 3 sous-stations de vue de profiter de la beauté de la nature. Le meilleur moment est quand le soleil se lève jusqu'à 10 heures, car à ces moments, généralement, le temps est ensoleillé, la vue ci-dessous sera clairement vue. Pour atteindre Suroloyo, vous pouvez choisir deux chemins. De Yogyakarta, vous dirigez sur la route Godean, Kenteng, Nanggulan, Kalibawang, Suroloyo. De Semarang ou Magelang, vous prenez Magelang, Muntilan, Wates, Kalibawang et Suroloyo. En plus de 2 lignes, vous pouvez également passer la voie alternative. Cette voie peut être atteinte en marchant à travers le Borobudur vers le sud, en passant par le sous-terminal Samigaluh vers Suroloyo. Pour entrer le site touristique du sommet Suroloyo, vous devrez payer un billet pour 2000 rupiah par personne. Pour ceux d'entre vous qui veulent profiter de l'ambiance naturelle typique des montagnes apaisantes, vous pouvez mettre en place leur propre tente au sommet Suroloyo. Pour ceux d'entre vous qui veulent éliminer la fatigue après avoir parcouru au sommet Suroloyo, autour des sites touristiques, il y a également les hôtels et l'hébergement disponibles avec le prix varie. Chers amis, C'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous dans les couleurs d'Indonésie et en pour titre Les mers, les plongeuses traditionnelles sur la plage de Kaimana en Papouasie-Occidentale. Chers auditeurs, la beauté de Kaimana en Papouasie-Occidentale est non seulement une vue sur le soleil couchant, comme représenté par un chanteur légendaire indonésien Bob Tupoli dans la chanson Crépuscule dans Kaimana qui est populaire dans les années 1970. L'exotisme de Kaimana qui n'est pas très connu par tant de touristes est la nature sous-marine avec les espèces de coralliens et de poissons uniques. Sur la base des recherches de la Conservation internationale en Indonésie, cette zone de conservation est le principal contributeur à la biomasse en Asie du Sud-Est, à savoir 228 tonnes par kilomètre carré. En plus de la conservation intégrée, la préservation du monde sous-marin de Kaimana n'est pas séparée de la sensibilisation de la communauté de maintenir l'océan. La sagesse locale, qui est la culturation de la culture des Papous avec les gens des migrants des Moluques ou Ternate, maintient également les gens à la menace de la famine. À Kaimana, la tradition de Sasingama est réalisée de génération en génération par les Papous côtières. La tradition de Sasingama est une interdiction de prendre lola ou un type de coquillage, les concombres de mer et batu laga pendant 11 mois par an. Seulement à certains moments, généralement la saison du vent ouest entre mars et mai, les résidents peuvent chasser des animaux marins qui ont la grande valeur commerciale. Serviteur, buka sasi ou l'introduction est faite pendant 2 semaines. Ce qui peut être pris est les grands animaux ou certaines tailles pour permettre aux animaux de se reproduire. La famille qui a suivi buka sasi dans Kaimana dort et cuisine ensemble aux tentes dans laquelle ils avaient installé de manière de l'entraide au bord de la plage. La vie des gens aux petites îles dans Kaimana est formée par l'environnement entouré par la mer. Non seulement les hommes, les femmes peuvent bien plonger sans porter des outils. Mace-mace ou salutation pour les femmes portent seulement le vêtement quotidien pour plonger à une profondeur de 10 mètres. Pendant des années, depuis le jeune âge à la vieillesse, les femmes de petites îles dans Kaimana plongent toujours sans outils pour récolter le biote marin au cours buka sasi. Cuisiner ensemble est la routine des mace-mace après la plongée. Du matin à midi, elle plonge avec son mari pour recueillir les concombres de mer et une variété de fruits de mer tels que lola et batu laga. Serviteurs, c'était les couleurs Indonésie pour ce soir avec le titre Mace-mace, les plongeuses de Kaimana en Papouasie-Occidentale. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de 3 villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel genre de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Les auditeurs de RRI World Service Voice of Indonesia, on se rencontre à nouveau avec moi, Nuka, dans une bonne émission de Palanginada, le programme musical. Aujourd'hui, je vais vous présenter des chansons dangdut. Chers amis, il y a beaucoup de nouveaux chanteurs qui se présentent toujours en Indonésie, comme les chanteurs de la musique dangdut. Ils sont venus après avoir participé au concours de talent de chant qui a été diffusé sur les chaînes de télévision commerciale en Indonésie. L'une des chanteuses de la musique dangdut qui a paru sur la télévision, c'est Selvikiti. En 2010, Selvikiti a participé au concours de talent de chant de la musique dangdut. Bien qu'elle n'ait pas gagné sur ce concours, mais ça devient le début de sa carrière comme une chanteuse de dangdut professionnelle. En 2012, elle a décidé de déménager à Jakarta. Ensuite, elle a formé un groupe de musique nommé Duo Walang Sangit. Puis, elle a choisi une carrière solo et a lancé la chanson intitulée Punya Abang. Chers auditeurs, écoutons la chanson de Selvikiti dont le titre est Punya Abang. Bonne écoute.
Karena bebek
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonésia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.